Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
Salut, vous êtes bien sur le 92.2 Radio Dijon Campus, c'est l'émission Vacarme en Réunion. Donc aujourd'hui, on est avec Leïla. Dis bonjour Leïla. Je te mets ton micro, vas-y, tu vas pouvoir dire bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et on est avec son invité, comment s'appelle-t-il ? Toufik Benchechoun ?
Benchouchaï.
Toufik Benchouchaï qui interviendra en fin d'émission, qui est un spécialiste du CNRS du Yémen. Voilà, du coup, aujourd'hui.
Que tu gâches un peu les surprises quand même, hein. T'aurais pu attendre un peu pour les.
Je voulais simplement introduire mes invités, je suis désolé. Voilà, du coup, aujourd'hui, on voulait vous parler. Du coup, on va vous faire une émission en deux temps. Dans la première partie, on avait à cœur un peu de revenir sur les événements qui ont entouré les attentats de Charlie Hebdo et vous livrer un peu une vision singulière, notre vision. Et du coup, dire un peu ce qu'on en pensait et vous donner un peu quelques matériaux qu'on avait besoin de, en quelque sorte, de faire sortir à la suite de tout ce raffut. Voilà, du coup, pour commencer, je voulais juste appuyer un peu sur deux trois choses que deux trois réflexions que je me suis faites à la suite des événements des attentats. La première, c'est que bon, on pourrait parler de l'aspect spectaculaire de tout ce que de l'Union nationale et de tout ce qu'il y aurait à critiquer du problème de la liberté d'expression et un peu de l'hypocrisie qu'il y a derrière tout ça. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur ce qui s'est passé avec la manifestation du dimanche 11 janvier, qui était comme ça une espèce de réaction à la fois émotive de tout un tas de Français et en même temps qui n'était pas juste émotif, qui était guidé par certaines idées, défendre la démocratie contre la liberté, contre la terreur, etc. Et j'avais l'impression que c'était en fait comme une espèce de... Ce qui avait grandi, c'était une espèce de nécessité d'éprouver comme une espèce de puissance collective, comme si on avait été complètement dépossédé avec ces attentats, voilà, comme une espèce de coup de marteau qui s'écrase sur nous et qui nous dépasse complètement, qui est pris dans un jeu géopolitique qui nous dépasse complètement. Et en même temps, on parle d'ennemis intérieurs, etc. Et du coup, ce qui comptait, c'est voilà, c'était de ressentir que on pouvait encore quelque chose de manière plus ou moins illusoire. Voilà. Bien sûr, on aura à cœur dans l'émission de critiquer un peu ce qui s'est passé, notamment. On a imaginé en fait parler de tout ça en deux temps. D'abord aujourd'hui, en revenant sur la notion de guerre antiterroriste. Ça sera pour la deuxième partie de l'émission. Et j'espère dans deux semaines, dans la prochaine émission, on parlera plutôt de la guerre intérieure, c'est-à-dire de comment quelles vont être les conséquences de toutes les mesures qui vont être prises, de toute la politique qui va découler des attentats. Pour ce qui se passera sur le territoire français, dans les différentes poches d'hostilité avec l'État, différentes poches de résistance, que ça soit dans les banlieues, dans les ZAD, comme on parle souvent ici. Voilà. Et du coup, pour la première partie de l'émission, il y a deux contributions qui sont assez subjectives, on va dire ça comme ça. La première, que Leïla va nous retransmettre tout de suite, c'est celle d'un auditeur anonyme qui a fait une sorte de petite chronique sur ce qui s'est passé, le traitement médiatique. Et la deuxième contribution subjective, ça sera un espèce de récit en musique qui reparle des événements et qui livre deux trois analyses au fil de l'histoire. Voilà, du coup, tout de suite, la chronique de notre cher auditeur anonyme.
Putain d'époque. Que trois tarés munis de Kalachnikov aient fait sauter la cervelle à 14 journalistes, ça la fout mal. Ça nous fout mal. Ça me fout mal, indéniablement. Mais de voir la France, cette putain de France avec un grand F s'endeuiller en masse, sagement, ça me désespère. Depuis mercredi, on a l'impression d'avoir ouvert un nouveau chapitre de l'histoire. Chapitre que l'on pourrait nommer « Je suis Charlie » ou « Ferme ta gueule ». Ou mieux encore, ferme ta gueule pour la liberté d'expression. Le slogan est tellement en vogue que 120 marques piétinent en attendant de savoir laquelle pourra produire de magnifiques t-shirts « Je suis Charlie ». Bref, laissons la nation en deuil avec les magnifiques histoires de fesses que Charlie ne se lasse pas de nous dessiner et retrouvons un peu d'humour pour ne pas manquer les perles du moment. Si Charlie faisait rire, moi, je n'aurais jamais cette prétention. Surtout que vous êtes peut-être comme moi, les zygomatiques un peu crispés après avoir vu des millions d'images, de millions de personnes, avec des millions de pancartes « Je suis flic, je suis Charlie ». À croire que les recrues de la NAS vont faire un bond en 2015. En même temps, si les politiques appellent à la constitution d'un pacte national contre le terrorisme, il va en falloir de la flicaille. Heureusement que Taubira est là pour freiner un peu les ardeurs sécuritaires de ses condisciples. Elle semble endosser à merveille le rôle de la fervente défenseuse de l'état de droit et de la démocratie dans la tragédie héroïque magnifiquement jouée par les hommes d'État cette dernière semaine. Petit écart dans les règles dramaturgiques classiques, les spectateurs peuvent décider du bon déroulement de l'histoire. En effet, le site du Figaro propose aux internautes de répondre par oui ou non à la question « Faites-vous confiance à Christine Taubira pour apporter la bonne réponse pénale au terrorisme ?» D'ailleurs, parlons-en de cette réponse pénale. Parce qu'en la matière, ce n'est pas les propositions politiques qui manquent. Entre les centres de déradicalisation qui font un buzz à droite comme à gauche et la proposition d'Éric Ciotti, monsieur le spécialiste des questions de sécurité à l'IMP, de supprimer les allocations familiales aux parents qui auraient perturbé ou qui n'auraient pas participé aux minutes de silence pendant les rassemblements, il y a de quoi sourire. Et sourire, le mot est gentil. On ne reviendra même pas sur l'idée purement fasciste de créer un Guantanamo à la française. Pendant qu'on y est, ce Guantanamo pourrait s'inspirer des méthodes disciplinaires des prisons de l'État islamique. Et ces méthodes seraient prématurément observées lors d'interventions éclairs à coups de drone au Mali ou en Irak ou même en Afghanistan. Bon, on pourrait croire que ces propositions s'arrêtent là, parce que c'est quand même déjà assez gros comme ça, non ? Ah mais non, elles s'arrêtent pas là. Car il faut faire face au terrorisme, mais aussi prévenir le terrorisme. C'est la fameuse méthode du curatif-préventif, préventif-curatif. Et en matière de prévention, rien de mieux que la jeunesse en devenir. L'histoire nous l'a montré, et aujourd'hui, Bernard Debré revendique le retour de l'uniforme obligatoire, ainsi que l'obligation d'afficher la Marseillaise sur les murs de la classe. Valérie Pécresse, elle, n'en peut plus avec ses cours de morale républicaine. Pauvre gosse, il va y en avoir du chewing-gum à décoller sous les bureaux, hein. Et la jeunesse réactionnaire, elle aussi, elle est loin d'être épargnée. Depuis quelques jours, les convocations gratuites au bureau des services de renseignement de la police vont bon train. Sûrement histoire de vous faire sagement comprendre que vous avez plutôt intérêt à vous tenir à carreau. On embauche même des spécialistes de la distinction entre croyance et savoir, pour démentir les théories complotistes qui foisonnent sur Internet. Théories qui tiendraient l'État français, ou les États-Unis, ou même parfois le Mossad pour responsable des attentats. À cela, Gérard Bronner, le fameux spécialiste, répond sereinement qu'il faut lutter contre la crédulité des jeunes de banlieue. Eh oui, c'est ses propres propos. Bon, peut-être vaut-il mieux en rester là, faute de quoi nous pourrions bientôt être taxés de prise de parti terroriste, nous aussi. Mais que cela soit dit, ils nous auront pas ces bâtards, même dans cette putain d'époque.
George W. Geek, ou le premier blockbuster à ciel ouvert. Une avalanche de caractères, des rafales de pixels. Bizarrement cantonné à l'espace géométrique, bidimensionnel et strictement limité d'un écran fondamentalement noir.
Bip.
Sifflement lointain et numérique. Redressement en sursaut et inspiration subite. Bouche écartelée, déterminée à capter la totalité de l'oxygène disponible en une fois.
Bam !
George W. Geek s'éclate l'hémisphère ouest du crâne contre sa lampe d'architecte, affaissée progressivement durant sa courte nuit. Cependant que le choc se répercute à la périphérie de son lobe tubulaire, coincé sous la paroi osseuse martyrisée, le subitement sorti d'un cauchemar George se frotte la joue droite. Endolori et sculpté d'un relief parallépipédique, causé par l'utilisation malencontreuse de son clavier d'ordinateur en guise d'oreiller. Soupir de dépit. semblablement déclenchée par la répétition quotidienne de cette scène sournoisement révélatrice. Ou bien par la brusque redescente terrestre succédant à l'orgasme atmosphérique déclenché par la bouffée d'oxygène démesurée que son corps s'auto-administre au réveil. Le meilleur moment de la journée, quoique mesurable uniquement à l'échelle du nanoseconde. Pendant ce court laps de temps, George espère systématiquement que ce brusque shoot l'enverra définitivement dans un monde onirique colossalement concret en comparaison de ce que les humains d'extraction occidentale nomment confusément « réalité ». Comme d'habitude, il réalise assez vite qu'au lieu de cela, son existence est maintenue immuable entre ses cauchemars embrouillés et un état de veille vaseux. Malgré cette texture morbide dans laquelle sa conscience baignait nuit et jour, W. Geek n'avait rien du dépressif. Il était plutôt du genre asset guerrier, s'étant doté d'une stratégie d'auto-organisation individuelle de type militaire, ce qui signifiait en pratique une rationalisation extrême de tous les aspects de sa vie biologique. Quoiqu'il passait le plus clair de son temps à martyriser son esprit devant des signaux photoélectriques, son hygiène de vie n'avait aucune faille. Par ailleurs, il passait le plus clair de son temps à fomenter des canulars, à lancer des rumeurs aussi absurdes qu'efficaces, à commenter les vicissitudes du monde, tournant en dérision tout ce qui pouvait l'être. Tout ceci depuis son terminal informatique, cela va sans dire. Son ironie, sans borne, touchait certes au nihilisme, mais il fallait reconnaître qu'il était d'un naturel plutôt jovial.
En Occident, la frontière entre réalité et fiction semble en passe de s'estomper complètement. Pour laisser place à quoi ? À la fin de l'histoire, l'existence en cocon oscille entre la vitesse du cinématographe et la pesanteur de l'horloge. Si bien qu'on est aisément perturbé par n'importe quel excès du réel. Tout écart devient violence. Mais la violence doit encore faire partie du film. Tout ceci est bien connu. Particulièrement Monsieur W. Geek et de ses 18 heures sur 24 d'absorption virtuelle. Reste à évaluer alors le type de causalité qui nous guide et la marge d'action dont nous restons capables. On le verra. Comme c'est étrange, à l'heure où la fiction et réalité se mêlent, tout est affreusement lointain et en même temps, tout est immédiatement accessible.
La nouvelle de l'attentat fit à W. Geek, comme à une énorme majorité de ses concitoyens ce jour-là, l'effet d'un uppercut. Désorienté, il se riva un peu plus fermement à son écran et commença sa navigation sur le web. L'horreur était en tête d'affiche partout. L'information s'écroulait sur lui, saturant tous les canaux journalistiques habituels. Nul besoin de chercher. Images, récits, commentaires se bousculaient et les nouveaux onglets de sa page internet semblait s'ouvrir spontanément comme du pop-corn en train d'éclater. La béance ouverte en lui par l'attentat exigeait pour y faire face de se livrer à une boulimie sans pareil. D'autant que George eut immédiatement le sentiment d'avoir loupé une grosse séquence. Retard impossible à combler. Il se mit à laisser la déferlante lui envahir les neurones. Les faits rapportés minute par minute, les 53 rumeurs, les 77 000 contributions des internautes, la vidéo Twitter de 14 secondes enregistrée par un témoin direct, les mesures présidentielles, l'opération policière déjà en cours, l'émotion populaire déjà palpable au travers des appels à rassemblement dans toutes les villes. Le temps d'aller aux chiottes et il avait l'impression d'avoir loupé 3 ou 4 rebondissements décisifs. Ainsi, George W. Geek, lui qui était un monument de cynisme et de mauvais esprit en temps normal, fut emporté dans la tourmente. Toutefois, il ne resta pas longtemps abasourdi de la sorte. Bien vite, ce fut une jouissance ambiguë qui l'anima. N'était-ce pas l'expérience la plus haletante qu'il faisait sans quitter l'espace étroit et bordélique de son bureau ? W. Geek eut un petit rictus en songeant à l'immoralité de cette sensation paradoxale. Le portrait des terroristes présumés se diffusait à la vitesse de la poudre suite à une fuite malencontreuse orchestrée par un média étranger. Les journaux nationaux avaient été pris de court. La chasse à l'homme battait son plein.
Les fauves étaient lâchées dans l'arène. Les tribunes s'enflammaient. L'enchaînement incessant des péripéties, relaté quasiment en temps réel dans les médias, provoquait en lui les mêmes impressions qu'un bon gros blockbuster. Cette réflexion provoqua soudainement une brusque éclaircie dans son cerveau. Son indifférence universelle avait repris le dessus. Pourtant, l'écrasante proximité de toute cette brutalité avait continué de le tarauder, le laissant légèrement nauséeux. Ainsi, lorsque se fit jour dans son esprit, que tout ce chambardement répondait en fait secrètement à l'enchaînement logique d'un scénario de film à grand spectacle, un poids immense s'évapora pour lui. D'abord, le carnage, absurde et évident, imprévisible et déjà vu. La frénésie générale, l'état d'urgence, le temps suspendu, réaction à chaud, émotion, que fait la police ? Inévitablement, le chapitre suivant consistait en une traque haletante. Signalement, enquête, sécurisation générale des flux de circulation, mobilisation globale. Puis, le scénario se diffracte. Des événements obscurs, d'abord sans lien avéré avec la trame principale, viennent complexifier l'intrigue. L'ombre d'un désordre généralisé passe comme un songe au-dessus de la réalité. George W. Geek se mit en quête d'un titre à épingler sur cet emballement hautement cinégénique. Comme lui, ils étaient des milliers à vivre l'aventure par procuration. Et livrés à un public vorace, les événements devaient apporter satisfaction. Destinés à une population effrayée, la réponse se devait être aussi implacable que la menace était confuse. Cette population était devenue à la fois le lieu même où se déroulait la bataille, son juge omniprésent et la foule observatrice, impuissante, irrémédiablement distanciée de l'action. Animé d'un regain d'ironie, W. Geek s'amusa à concocter une affiche promotionnelle pour accompagner la diffusion de ce premier blockbuster à ciel ouvert de l'histoire. Il placarda sur un fond noir le titre qui lui était venu à l'idée et qui résumait le mieux son raisonnement.
« Je suis Charlie. »
Prenant son tour dans la file ininterrompue des tweets, il publia sa trouvaille en l'accompagnant du commentaire
« Le premier blockbuster dont vous êtes le héros. »
Il sombra dans le sommeil une minute plus tard. Cette nuit-là, W. Geek fit trois rêves étonnants et angoissés. D'abord, c'est d'une cravate trop serrée qu'il ne parvenait à se défaire. Ses pas se précipitaient sur un dallage sombre aligné à l'infini entre des bâtiments de verre et d'acier. Visiblement, il avait rendez-vous avec quelqu'un d'extrêmement important. Et la raison en était extrêmement grave. Sa nuque était endolorie à force de tentatives pour élargir cette boucle de cravate qui le privait d'oxygène. Un second attentat, beaucoup plus meurtrier, beaucoup plus aveugle, avait frappé la capitale. L'heure n'était plus aux exercices d'équilibristes entre opérations policières d'exception et discours tolérants et rassembleurs. Plus aucun citoyen ne se sentait en sécurité, et des milices d'autodéfense apparaissaient partout, adoptant les visages les plus absurdes. Ainsi de ce GJD, groupement pour un djihad démocratique, dont les agents prosélytes sillonnaient les rues en plein jour, des sacs cabas remplis de kalachnikov à la main, distribuant ses armes à qui le désirait. Ou alors de cette fantasque brigade des crayons pacifiques, qui avait fait des émules aux quatre coins de l'hexagone en un temps extraordinairement faible. Si bien qu'une majorité de librairies papeteries ressemblait désormais à des armureries infantiles, faisant commerce d'arbalètes à mine de graphite ou de bombes à punaises et encre de Chine. On disait même que 23% des habitants des 10 plus grandes villes du pays avaient émigré dans les égouts, formant des agrégats hostiles aux autorités. La devise, aussi cabalistique qu'inquiétante de cet exode massif, était devenue le hashtag le plus relayé sur Twitter.
Sans ennemi, de visage tu n'auras. L'ayant trouvé, l'extermine et tu disparaîtras.
Sans ennemi, de visage tu n'auras. L'ayant trouvé, l'extermine et tu disparaîtras.
Les immeubles s'estompent, la cravate se dénoue. L'angoisse empressée se maintient. La moiteur irrespirable aussi. W Geek est maintenant un presque fugitif. Il ne sait pas très bien, à vrai dire. Il doit se faire passer pour un étranger. Un bus l'emmène vers un aéroport quelconque. La navette fait d'innombrables arrêts, dont l'un au beau milieu du périphérique. Monte à bord un type avec un sac cabas en plastique. De son sac dépassent ostensiblement 5 ou 6 canons de Kalachnikov. Aucun des passagers n'a l'air surpris. Ou peut-être simulent-ils tous la même indifférence glacée que la sienne. Arrivé au terminal des bus, un trio de policiers l'attend. Ils sont coiffés de képis énormes et rutilants, cintrés dans d'impeccables uniformes marrons à épaulettes, les yeux masqués par de grosses lunettes noires. Ils l'accostent avec une politesse qu'on dirait railleuse à cause de leur accent fortement exotique. Tout en faisant sourire leurs énormes bouches moustachues, ils lui ligotent les poignets. Et, changeant subitement d'humeur, l'emmènent prestement dans un box en plexiglas opacifié. Un interrogatoire sans queue ni tête s'engage tambour battant.
Avez-vous l'intention de ne pas commettre d'attentat dans cet aéroport ? Préfériez-vous mourir d'un coup sec ou mourir avec une lenteur extrême et consciente ? Avez-vous vécu en Afghanistan dans une vie précédente ? Que vous inspire comme réflexion la devise de notre unité spéciale ?
Sans ennemi, de visage tu n'auras. L'ayant trouvé, l'extermine et tu disparaîtras.
Incapable de répondre, resté absolument quoi ? W Geek fut pourtant libéré dès que la liste des questions parut épuisée. Celui qui semblait être le chef de section lui envoya une violente tape dans le dos et lui offrit un chèche palestinien en le conduisant vers la sortie. Partout dans les halls de l'aéroport régnait une agitation extrême. Partout, des mains tentaient de l'agripper. On s'écharpait sur son passage. On exigeait de lui qu'il se prononçât à propos des échanges enflammés qui éclataient de ci, de là. On exigeait de lui... Pardon. Au regard de ce labyrinthe de fruits et de fureurs, de bruit et de fureur, passer les différents checkpoints ressembla à une partie de plaisir. Il se réfugia dans l'avion croyant avoir trouvé enfin un refuge. Son inquiétude s'approfondit pourtant lorsqu'il constata que chacun des passagers était comme lui paré d'un chèche volumineux. Alors que l'avion était sur le point de décoller, un steward aux allures de colonel égyptien leur adressa ce salut.
Bienvenue à bord de ce vol en voie de détournement pour la Syrie. Félicitations à tous pour votre courage et votre détermination à rejoindre les nouvelles brigades internationales.
L'avion s'estompa. Le chèche se dénoua et disparut. L'angoisse se cabra de plus belle. Elle prit la forme d'un bourdonnement sourd. Une vibration continue se communiquait à la totalité de son corps depuis le sol. L'air était gris et lumineux, sec de toutes parts. À l'instar du désert de cailloux anguleux qui l'entourait, à une distance indéfinie, le sol se lézardait en crevasses aux bords galvaudés et arrondis, avant que ne se dressent brutales et irréelles des montagnes ravinées, aux reflets bruns et anthracites. Elle le cernait avec une régularité géométrique. Le bourdonnement se répercutait contre les parois lointaines, se dédoublant parfois, ronflant en paliers sonores d'intensité variable. Au cœur de ce décor désolé et obsédant, il aurait dû ne rien y avoir. Au lieu de cela, un vieillard triturait des cendres entouré de quelques murs en ruine. Un sac cabas en plastique, vide, traînait à ses pieds. W Geek s'approcha avec prudence. Un long habit balayait ses jambes. Chaque nouveau pas allégeait le poids de son corps. Parvenu à la hauteur du vieillard, Des mots émergèrent de sa bouche malgré lui.
Quel est cet animal que l'on entend bourdonner au loin ?
C'est la foudre qui s'interroge.
Pardon ?
Un drone, idiot. Véritablement, ils produisent le même son que les 1000 abeilles que l'on croit sentir fondre sur vous. Lorsque, posté sur un pic rocheux, la foudre vous y signale sa chute imminente.
Où sommes-nous, d'ailleurs ?
Sur le terrain de jeu des rois poltrons.
Le terrain de jeu des rois poltrons.
Un désert, imbécile. Un désert de ceux qui doivent être anéantis. Avec une méticulosité technologique. Afin de ne plus nuire au sommeil des rois d'invincible lâcheté.
Pourquoi ce désert serait-il la cible de drones ?
De tout temps, les volcans accouchèrent de roches et les roches s'entrechoquèrent.
Je ne suis pas sûr de vous suivre.
La guerre, crétin ! La guerre contre-insurrectionnelle. La guerre contre la terreur. L'ultime croisade pour la paix. Que veux-tu qu'il se passe d'autre lorsque l'on réunit un désert inextricable et un ciel vrombissant de bruit mécanique ?
Et où sont-ils, soldats et insurgés ?
Où est passée la guerre ? Où est passée la guerre ? Ha ! Ils font une gigantesque partie de cache-cache. Les uns dissimulent leur corps à des distances infranchissables pour se préserver de la mort qu'ils distillent avec leurs machines volantes. Les autres se dissimulent dans la foule, au corps à corps, prêts à frapper n'importe où chez l'ennemi qui se dérobe. Où est passée la guerre ? Où est passée la guerre ?
Les murs s'estompèrent en gerbes de poussière silencieuse. Le bourdonnement s'amenuisait. WGeek se sentait devenir d'une légèreté absolue. Le vieillard cria en cherchant à l'attraper. Ses paroles résonnaient, atténuées comme dans un bocal.
Sans ennemi, de visage tu n'auras. L'ayant trouvé, l'extermine et tu disparaîtras.
Bip.
Sifflement lointain et numérique. Redressement en sursaut et inspiration subite, bouche écartelée, déterminé à capter la totalité de l'oxygène disponible en une fois. Choc au crâne, soupir de déception. WGeek se réveilla après un sommeil d'une durée démesurément longue. Se connectant aussitôt, il ne fut pas étonné de constater qu'il avait raté le dénouement. La fin tragique et héroïque. La valse exaspérée de la police et des médias, l'état de siège, les dérapages, la peur encore, les héros ordinaires ou les scandales médiocres. WGeek, à l'inverse de la majorité de ses concitoyens ce jour-là, reçut tel un uppercut la vision d'une contamination totale de son titre de blockbuster. Je suis Charlie, partout. L'ironie était partout à l'affiche. Ce qu'il avait conçu comme une plaisanterie, était devenu un étendard équivoque. Des hordes de gens revendiquaient désormais une légitime participation au spectacle. On se précipitait sur la pellicule. Il eut l'intuition que ce qui devait être une apothéose collective, un moment historique annoncé, aurait plutôt des allures d'enterrement. La résurgence du consensus social enterrait le réel, sa violence et notre habileté propre à la manier comme à lui faire face.
Voilà, c'était une nouvelle que nous avons intitulée George W. Geek, ou le premier blockbuster à ciel ouvert. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la seconde partie de notre émission, qui va donc s'attaquer plus frontalement à la question de la guerre.
Oui, alors voilà, donc cette émission Elle nous paraissait importante dans l'idée de recontextualiser un peu les attentats. Et plutôt que vous faire un récit twitteriste ou heure par heure de ce qui s'est passé, alors que vous l'avez déjà entendu 100 fois, on a préféré vous raconter une histoire et vous lire une lettre qu'on a trouvée plutôt intéressante. Voilà, et maintenant, à partir de ces événements, du côté sensible de notre réaction, de cette agression qu'on peut ressentir par rapport à ce qui s'est passé, on trouvait que c'était important de creuser et d'aller plus en profondeur et de déterrer certains fantômes que les gens ne voient pas mais qui sont bien présents. Parce que on a trop entendu que ces attentats venaient se poser comme une espèce d'agression infondée. Genre, on ne sait pas d'où ça vient, ça atterrit comme ça. Alors qu'en fait, en y réfléchissant, on trouvait des éléments de réponse, quoi. Et donc, on pouvait même voir derrière ça une guerre féroce qui se livrerait d'un côté comme de l'autre. Qu'on n'aurait pas juste le terroriste, le méchant qui arrive et qui bute des gens, quoi. Qu'il y aurait vraiment un double jeu, en fait, de la part de l'armée, des États, et un jeu aussi, du coup, là... de la part des terroristes. Et du coup, par rapport à ça, une des questions qu'on s'est posées, c'est la question de la guerre qui nous est étrangère, mais qui se livre des deux côtés empiriquement dans différents pays. Parce que c'est indéniable qu'il y a des interventions militaires qui sont entreprises dans plusieurs pays dans le monde, et que ces interventions, même si elles sont organisées par des drones, donc non pas par des soldats, mais par du matériel de guerre dépersonnalisé, on a déjà vu que ces interventions, elles ont pu faire des morts chez les civils, des morts chez les résistants, les rebelles, etc. Voilà. Et donc, par rapport à cette question-là, on voulait reprendre les choses en deux temps. Dans un premier temps, on voulait reparler un peu plus précisément de cette idée de cette idée de guerre étrangère, de cette idée de guerre complexe, voilà. Et dans un deuxième temps, on a donc un invité qui est avec nous, et on voulait lui poser quelques questions sur un cas particulier qui est le Yémen. Donc voilà, je vais laisser la parole aux autres personnes qui sont avec nous.
Du coup, je vais tout de suite... On est un peu passé de l'autre côté du miroir, vous allez comprendre pourquoi avec l'extrait. Et on s'est intéressé au drone comme un espèce d'image inversée du terroriste qui vient frapper l'Occident. Je vous passe un extrait du coup d'une interview de Grégoire Chamaillou qui a écrit « Théorie du drone » et qui s'intéresse aux mutations en cours de la guerre et plus particulièrement de la guerre antiterroriste à l'aune de cette nouvelle technologie qu'est le drone.
Qui permet de mettre en œuvre quelque chose qui apparaît dans l'histoire du droit de la guerre comme une invention inouïe, c'est le principe d'immunité du combattant national. Or ça, c'est en rupture complète, parce que, un petit rappel, mais dans le droit de la guerre, le principe fondateur en la matière, c'est l'immunité des non-combattants,
des civils,
et quelle que soit leur nationalité. Quelle que soit leur langue et leur couleur de peau, les civils doivent être préservés. Parce qu'ils ne sont pas en situation de se défendre ou de participer aux hostilités. Là, on invente un nouveau principe, sui generis, qui est fait pour l'occasion, hein, qui est l'immunité du combattant national. On affirme que les vies des nôtres, entre guillemets...
Oui, c'est ça, c'est qu'il faut réintroduire « nous » et « eux ». Le système pseudo-philosophique mis en place pour justifier les frappes de drones ne repose que sur une distinction entre deux catégories d'humanité. Ça n'est plus la distinction « les combattants » et « les civils », où jusqu'à présent on mettait en péril la vie des combattants et c'est le jeu de la guerre et c'est la morale de la guerre. Maintenant, la distinction n'est plus « combattants » versus « civils », mais « nous », la guerre juste, et « eux », chez qui le nombre de victimes est... négligeable parce que eux, ce eux-là, tous, civils, combattants, on ne sait pas, sont considérés comme, même si ça n'est jamais formulé avec autant de netteté, au fond, une espèce inférieure. Enfin, il y a quelque chose, on retrouve un peu l'indigénat, l'idée que les autochtones ont la valeur de leur existence compte moins que celle du combattant. C'est fou, on est en train de réintroduire de la hiérarchie dans l'espèce humaine.
Oui, nos vies sont absolument sacrées et les leurs sont absolument sacrifiables. Et on peut effectivement interpréter ça comme une rupture radicale dans l'égalité ontologique de la considération des vies humaines. Vous prenez la description de ce qui se passe, en revanche, dans une province telle que le Waziristan au Pakistan, et la situation a été documentée par un rapport américain qui s'appelle, par des ONG américaines et des juristes qui sont enquêtés sur place, un rapport qui s'appelle « Vivre sous les drones ». La population entend un bourdonnement constant, des frappes régulières, dans certains villages c'est à répétition. Ils voient très bien que les personnes touchées, elles le sont de manière en pratique indiscriminée. Et l'image qu'on a, c'est une image de terreur et de terreur, oui. De terreur générale. Enfin, je cite un psychiatre pakistanais dans le livre qui rapporte. Enfin, c'est des états.
Ça rend fou.
Ça rend fou.
Ça rend littéralement fou. Ça oui. Fou.
Enfin, il faut s'imaginer qu'est-ce que ça peut être de vivre avec des miradors armés au-dessus de ses têtes en permanence. Et ça, enfin, par ailleurs. Les stratèges américains, ils l'ont théorisé. Je cite aussi des
textes. Ah oui, je veux dire théoriser. Le fait de rendre fou, ça fait partie du projet ?
Charles Dunlap, qui est un des stratèges de l'Air Force et qui est aujourd'hui un des partisans de la guerre contre-insurrectionnelle par les airs, dit bah, cette arme, elle a un avantage tactique décisif. Avantage tactique décisif parce que ça permet de terroriser l'ennemi.
Il appelle ça la dislocation psychologique, c'est ça, hein. Ça produit de la c'est l'opportunité de disloquer la psychologie des insurgés.
Oui.
Voilà comment il dit ça, disloquer la psychologie des insurgés.
Des insurgés et de tous ceux qui sont à côté de, enfin, je veux dire, de toute une population, oui. Hein, de manière indiscriminée. Pourquoi ? C'est très simple, l'idée c'est des bombes qui tombent du ciel, vous ne pouvez pas les combattre. Ça prive l'ennemi de combat, ça prive l'ennemi d'ennemis, ça retourne, mais de manière radicale, hein, radicalisée, contre des mouvements de partisans de guérilla, un principe qui était le principe de l'esquive ou de l'escamotage. Et c'est théorisé par ces stratèges-là, très explicitement, comme une arme de terrorisation. C'est l'arme du terrorisme d'État, avec des débats internes à l'appareil militaire américain. Vous avez aujourd'hui un conflit entre deux branches, en fait, de la stratégie contre-insurrectionnelle. D'un côté, ce premier courant, la contre-insurrection par les airs ou aérocentrée,
ouais.
Et de l'autre, des théoriciens plus traditionnels de la guerre contre-insurrectionnelle qui ont lu des théoriciens français comme Galoula et qui ont été inspirés, c'est paradoxal, mais indirectement par une conception marxiste révolutionnaire de ce que c'est qu'une insurrection et oui. des coordonnées principales qui permettent de remporter le combat. Et pour ces gens-là, l'idée centrale, c'est une guerre contre-insurrectionnelle, ça se gagne, formule consacrée, en ralliant à soi
les cœurs et les esprits.
Les cœurs et les esprits d'une population.
C'est-à-dire que ça se joue sur le terrain politique. Il faut produire du discours et de l'argumentation pour gagner les cœurs et les esprits.
Il faut être sur le terrain. Ouais. Et donc l'objection qu'ils font à l'autre courant, c'est de dire une guerre menée du ciel par une arme qui apparaît comme lâche, qui apparaît comme odieuse, dans les régions où elle frappe, mais aussi parce qu'on est dans un âge médiatique. Auprès d'une opinion publique transnationale, y compris à l'intérieur même des pays occidentaux, cette stratégie-là, qui remplace en réalité une vision politique des choses par un gadget technologique, elle va entraîner des retours de bâton. En réalité, il y a une stratégie d'éradication indéfinie qui reproduit par ses effets négatifs la menace qu'elle est censée éradiquer.
Ça, vous montrez qu'en fait, ça refabrique l'hydre dont on prétend décapiter toujours les extrémités. En fait, on les régénère à chaque fois par la violence qu'on exerce sur elles. Ça fabrique de la haine.
Et ce qui est très intéressant, c'est la réponse que font donc, les partisans de la contre-insurrection par les airs. En bref, c'est whatever.
Oh, on s'en fout. Oui, bien sûr. Allons-y. Oh, tant pis, on va décapiter les têtes à mesure qu'elles repousseront, puisque l'arme ne nous fait courir aucun risque personnel. On s'en fout de générer, en gros, de l'insurgé au kilomètre, si je puis dire, puisqu'on va tous, on va les décapiter.
Et ceci avec une mutation qui est permise par cette arme-là, parce que ça, c'est Eyal Weizman, hein, qui est un architecte israélien, qui le montre. Il y a une tendance à passer d'une stratégie d'occupation à une stratégie de contrôle par les airs. Donc, et c'est ça qui se passe. Et à partir du moment où on contrôle un territoire par les airs, alors on peut avoir cette politique de terreur et d'éradication indéfinie. Et on nous promet une guerre sans défaite. C'est peut-être vrai, mais ce sera aussi une guerre sans victoire.
Oui, elle est ingagnable, cette guerre-là.
Un dernier point là-dessus. Avec quelque chose qui devrait inquiéter les civils, les opinions publiques, des gouvernements qui mènent de telles politiques, c'est un phénomène mécanique. À partir du moment où les vies militaires sont tellement protégées qu'elles deviennent totalement inaccessibles, les représailles, parce qu'il y en aura, elles tendront à se déplacer mécaniquement vers des vies plus accessibles et plus vulnérables, c'est-à-dire des vies civiles.
Absolument. Et justement, quand on vous lit, on tombe sous cette évidence que la seule réponse aux drones, pour les populations qui en sont victimes, c'est évidemment le geste terroriste sur le territoire d'où est parti le drone. La seule réponse possible, puisque les civils sont touchés par le drone, la seule manière de répondre violence contre violence, à égalité de férocité, c'est d'aller foutre des bombes à Boston ou à New York. Et j'ai jamais aussi bien perçu la légitimité, c'est terrible à dire, hein, la légitimité du geste terroriste, les grands méchants talibans qu'on nous présente comme le monstre, l'incarnation du mal et de l'aberration absolue, je découvre qu'au fond, si on l'inscrit dans le rapport à la frappe de drone, c'est la seule réponse adéquate.
Aujourd'hui, au Pakistan, vous avez des mouvements qui passent par des mobilisations citoyennes, des manifestations qui sont de la politique. Hein. Parce que moi, je ne souscrirais pas du tout à l'idée que la représaille terroriste serait la seule réponse possible et la seule réponse adéquate aux frappes de drones. Et juste pointer, parce que c'est très important, hein, sinon on tombe dans un binarisme qui est intenable, hein, de rappeler qu'au Pakistan aujourd'hui, la contestation des frappes de drones américains passe de façon massive par des mobilisations citoyennes, des manifestations, des programmes politiques et des luttes électorales. Et aussi, un deuxième point important, c'est il y a une organisation anti-drone américaine, féministe, qui s'appelle Code Pink, qui est dirigée par Medea Benjamin. C'est elle qui a interrompu le discours d'Obama, c'est elle qui a interrompu le discours de Brennan. Et ces militantes sont allées au Pakistan rencontrer les familles de victimes, leurs avocats, parce qu'il y a des procédures judiciaires en cours, procédures judiciaires qui ont visé le responsable local de la CIA, qui a dû prendre le premier avion pour éviter d'être éventuellement traduit devant les tribunaux. C'est-à-dire, il y a une lutte politique, et une lutte politique qui peut se faire sur des bases aussi de solidarité internationale. Et heureusement pour nous, l'enfer du face-à-face du drone et de l'attentat terroriste, ce n'est pas le seul avenir possible. Mmh. Et ça veut dire qu'on a aussi, ici, au moment même où en France, vous l'avez rappelé, le ministre Le Drian annonce que la France va acquérir des drones Reaper, c'est-à-dire des drones chasseurs-tueurs, on nous dit, américains, non armés pour l'instant, mais on comprend entre les lignes que c'est pour accélérer la procédure d'exportation. Au moment où le tournant des drones chasseurs-tueurs est en train d'être pris en France, on a une responsabilité de mettre en circulation les discours critiques et de s'opposer à cette politique.
Radio Campus 92.2, vous êtes bien dans l'émission Vacarme en Réunion. On vient d'entendre Grégoire Chamaillou qui nous parlait de certains aspects de son ouvrage Théorie du drone. Voilà, et donc je voulais revenir un peu sur ce pourquoi on a parlé de ça et pourquoi on parle de la guerre. Donc on est un peu en avance sur ce qui se passe avec la France, puisque là c'est plutôt, par rapport aux États-Unis qui s'expriment et qui fait sa théorie du drone justement, parce que c'est eux qui sont extrêmement avancés dans l'utilisation de cette technologie-là pour traquer les terroristes. Voilà. Mais comme il le dit à la fin, la France est en train d'acquérir des drones et petit à petit, on connaît le processus, ça va se développer, ça va devenir plus des drones de surveillance, des drones de combat, etc. Et il y aura de moins en moins de soldats sur le terrain. Voilà. Et du coup, ce qui était intéressant intéressant pour nous, c'était voilà, de renverser la tendance, parler de ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est le pendant des attentats? C'est la guerre antiterroriste. Comment elle se mène? Qu'est-ce que son nouveau visage? Quel sera son nouveau visage dans un futur proche? Et aussi, comment est-ce qu'on peut sortir de ce binarisme entre terrorisme et antiterrorisme, où ni dans l'Union nationale, ni du côté du terrorisme, on peut trouver une prise de parti possible. Voilà. Du coup, juste pour revenir sur quelques caractéristiques de cette guerre antiterroriste, comme il le rappelle en l'extrait, c'est une guerre qui encore est toujours impérialiste, et donc elle prolonge le colonialisme, du coup en créant cette espèce de hiérarchie entre la valeur des vies, c'est-à-dire que les soldats américains qui conduisent les drones doivent être comme il le dit, leurs vies sont sacrées, alors que celles des populations des pays visés sont complètement sacrifiables. Et du coup, ça nous amène à nous interroger aussi sur ce qui s'est passé avec l'attentat, c'est-à-dire que des attentats, il y en a des dizaines, des attentats contre des médias, les occidentaux sont les premiers à en commettre durant les guerres qui mènent. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, la valeur d'une vie et la hiérarchisation de la valeur des vies entre suivant l'endroit où on existe sur Terre. Ensuite, la deuxième caractéristique de cette guerre, c'est qu'elle est infinie. C'est-à-dire qu'elle, c'est une guerre qui est à la limite entre l'opération policière, c'est l'espèce de guerre pour la paix, quoi. Et comme disait Carl Schmitt, qui a beaucoup parlé de la guerre, un philosophe tendancieux, on va dire, les guerres pour la paix, c'est les pires guerres, parce qu'elles conduisent elles ont jamais de fin, quoi. La seule fin, c'est l'extermination de l'ennemi. Et du coup, comme il le dit, cette guerre, elle est infinie parce que par sa lâcheté et par ses méthodes et par l'endroit où elle frappe, elle génère toujours une espèce de rébellion et de voilà d'indignation qui entretient le mouvement indéfiniment. Ensuite, troisième caractéristique, c'est qu'elle est extrajudiciaire, c'est-à-dire que les attaques de drones, comme certaines unités spéciales employées par le gouvernement américain, agissent sur ordre du président ou en dehors de tout cadre légal, et ça fait éclater complètement l'encadrement juridique de la guerre, entre guillemets. Et le dernier aspect, c'est un aspect un peu, comme on pourrait dire, diabolique, c'est que l'espèce d'horizon de la guerre antiterroriste par drone interposé et attentat en réponse, c'est un espèce de chiasme, c'est un espèce de figure de miroir, là où d'un côté on a une délégation de la part de la population à son armée de toute violence qui est infligée, toute violence appliquée et déléguée à l'armée, c'est-à-dire que c'est l'armée, la police, etc., qui sont les spécialistes de la violence, et les citoyens se rangent derrière l'État. Et à l'inverse, comme dans la guerre antiterroriste avec les drones, il n'y a plus de soldats atteignables par les insurgés et par les ennemis, l'armée, en quelque sorte, on pourrait dire, en poussant un peu le trait, délègue au peuple la violence subie. C'est-à-dire que, c'est comme ils le disent dans l'extrait, c'est les civils qui vont être attaqués parce que c'est les seuls ennemis qui sont atteignables par les insurgés, par les terroristes, nommons-les comme on les veut. Voilà.
Et donc, maintenant, on va en parler un peu plus concrètement avec l'exemple du Yémen et surtout avec notre ami Toufik Ben Choufaï. Voilà, bonjour monsieur. Et donc pour commencer, moi j'avais une petite question, enfin c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une demande de ma part, de faire en fait un rapprochement entre donc votre travail, donc le travail sur les conflits au Yémen et les attentats, quoi. Donc comment c'est possible de parler de ces deux choses-là et de faire sens en fait avec ces deux choses-là?
Alors pourquoi parler du Yémen en lien avec les frères Kouachi qui ont tué une douzaine de personnes à Charlie Hebdo la semaine dernière? Parce que le Yémen a traversé la vie de ces deux frères. On dit qu'ils ont été formés au maniement des armes là-bas, au Yémen. Alors il faut savoir que le repassage au Yémen, ça commence par une inscription à la Sana Language School, à Sana au Yémen, en 2009. Où il rencontre Omar Farouk Abdul Moutalab, un Nigérian qui va être responsable d'une tentative d'attentat le 25 décembre 2009 dans un avion à Détroit. Bon, j'y reviendrai après parce que cette histoire est intéressante, mais voilà, il y a déjà un premier lien avec une tentative d'attentat et les frères Kouachi. Ensuite, dans cette école, il rencontre Al-Alaki, qui est... Alors, Ce personnage-là est tout à fait fascinant parce que après les attentats du 11 septembre, il incarne la figure de l'imam modéré, pro-Bush, qui condamne voilà, toute forme d'attentat qui puisse être. Sauf que au fur et à mesure du temps, il y a une espèce de radicalisation qui va se faire. Et à partir de 2002, il y a un mandat d'arrêt qui est posé sur lui. Et l'ambiguïté de ce personnage, c'est que la première fois qu'il est arrêté, c'est en 2002 à l'aéroport international JFK. Et il est relâché grâce à l'intervention de l'agent Wade Hammerman du FBI. Et à partir de ce relâchement, Alaki va avoir une correspondance régulière par mail et par messages vocaux avec un agent du FBI. Alors à partir de ce moment-là, il devient un informateur du FBI et son rôle est un rôle bien connu que mettent en place les services secrets occidentaux, c'est-à-dire qu'il doit pousser les extrémistes. Il a comme rôle de pousser les membres d'une organisation à passer à l'action pour justifier la répression de l'organisation dont font partie ces personnes. Alors, à partir de ce moment-là, il voyage en Angleterre, au Yémen, et la commission sur le 11 septembre, qui est la commission d'enquête des attentats, demande à interroger Alaki. Le FBI refuse. Alaki repart au Yémen dans sa mission. Et à partir de ce moment-là, il y a un flou. On ne sait plus quelles sont ses relations exactes avec le FBI. Et la CIA décide de l'éliminer par frappe d'un drone. Alors, ce personnage de Alaki aurait servi d'intermédiaire pour la formation au maniement d'armes des frères Kouachi au Yémen. Voilà la relation entre les personnages.
D'accord. Et après, je me disais que pour nos auditeurs, ça pourrait être intéressant de faire un petit historique en fait du conflit au Yémen pour mieux voir les forces qui sont en jeu. Même brièvement.
Alors oui, pourquoi les États-Unis ont des intérêts au Yémen? Pourquoi l'accent est mis sur des frappes au Yémen et sur une intervention là-bas? Il faut savoir que le Yémen est un pays très instable. Il n'y a que depuis 1990 que le pays est réunifié. Avant, il y avait la République arabe du Yémen, ou Nord-Yémen, et la République démocratique populaire du Yémen, dit Sud-Yémen. Donc la République arabe du Yémen était une république musulmane installée par les États-Unis, soutenant les États-Unis, et la République démocratique populaire, une république marxiste en lien avec l'URSS, la Chine et Cuba. Alors le président de la République arabe du Yémen, de 1978 à 1990, c'est Ali Abdallah Saleh. Ali Abdallah Saleh, il devient président de la République du Yémen en 1990 lors de la réunification, et ce jusqu'à 2012. Et sous son mandat, il y a plusieurs. Alors, il y a beaucoup de contestations, des tentatives de sécession. La première tentative qui mène à une guerre civile, c'est en 1994. Tentative de sécession du Sud-Yémen, donc l'ancienne République démocratique populaire. Et il est intéressant de remarquer que les États-Unis interviennent, soutiennent le Nord-Yémen en envoyant les Moudjahidines, qui sont les soldats combattants en Afghanistan, qui ont été formés par les États-Unis pour combattre l'URSS, alors pendant la guerre en Afghanistan de 1979 à 1989. Cette guerre civile et cette tentative de sécession échouent pour le Sud. Ensuite, il y a plusieurs mouvements de contestation, plusieurs tentatives de sécession. Et en 2002, les États-Unis mettent en place un grand programme qui s'appelle l'International Military Education and Training. Ils envoient, alors de 2002 à 2014, c'est 150 millions de dollars qui sont injectés dans ce plan. La formation de 500 militaires yéménites et le début de frappes américaines au Yémen. Alors, dans ce courant, enfin, en parallèle à ce plan, la contestation du pouvoir continue et aboutit à une insurrection, l'insurrection zaïdiste, qui est une branche chiite, au Zaada, qui est au nord-ouest du Yémen, en 2004. Alors, cette insurrection prend de l'ampleur. En 2008, c'est des grandes manifestations dans tout le pays pour soutenir cette insurrection et en même temps pour soutenir une volonté sécessionniste aussi du sud du pays. En réponse à ça, alors 2008, voilà, insurrection zaïdiste, c'est une grande manifestation pour soutenir l'insurrection zaïdiste. Il était intéressant de noter que c'est à partir de l'année suivante, de 2009, que les États-Unis renforcent leur frappe aérienne par drone et commencent à parler d'Al-Qaïda au Yémen. Avant, personne n'avait jamais entendu parler d'Al-Qaïda au Yémen. C'est les États-Unis qui, le 17 décembre 2009, frappent par drone un village dans le sud du Yémen et déclare avoir détruit un camp d'entraînement d'Al-Qaïda à Al-Mahaljal. Alors, c'est le général Petraeus qui déclare « Nous avons tué 14 membres d'Al-Qaïda et 3 civils ont été tués dans cette opération. » Sauf que cette opération est un scandale, parce que des journalistes étudient, des journalistes yéménites sont allés sur le terrain et se rendent compte qu'en fait, c'est une tribu qui a été décimée. Donc 41 civils, dont 14 femmes et 21 enfants.
Donc qui n'ont rien à voir en fait avec une organisation...
Qui n'ont rien à voir avec Al-Qaïda, qui ont été déclarés comme combattants d'Al-Qaïda. Et ça révèle un peu un scandale à ce niveau-là. Donc les États-Unis, dans la suite de ce scandale, donc ça c'était le 17 décembre 2009... Le 25 décembre 2009, c'est le fameux attentat raté de Omar Falouk Abdulmoutallab qui arrive à monter. Alors ça, c'est très intéressant. Il a fait une tentative d'attentat dans le vol Amsterdam-Détroit. Il est monté dans l'avion sans papier alors qu'il était placé sur des listes de surveillance depuis plusieurs années par les services de sécurité occidentaux. Cet attentat... décrit par les passagers, c'est un incendie dans l'avion. Et en fait, ils ne pensent pas du tout à un attentat, c'est médiatiquement que c'est considéré comme un attentat. À partir de là, c'est l'occasion pour les États-Unis de justifier les frappes du Yémen, parce qu'ils affirment que Abdulmoutallab a été formé au Yémen et intensifie les frappes sur le pays.
Bon ben voilà, c'est sûr que c'est intéressant de voir comment dans un pays précisément, donc il y a une guerre offensive qui est menée par un État, même si c'est à coups de drones, etc. Et ça nous permet effectivement de dépasser un peu notre premier sentiment d'impuissance et de se rendre compte qu'il y a un vrai jeu géopolitique militaire même dans tout ça et qu'on subit pas des attentats et qu'on n'est pas juste là à les subir quoi. Donc voilà, et je crois que c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci à notre invité, hein, Toufik. Merci à tous.
Merci Toufik.
Voilà, et puis on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, on passe le bonjour à ceux qui sont au Mita, on passe le bonjour à ceux qui sont en prison, on passe le bonjour à plein de gens. Voilà.
Et on se retrouve du coup dans 15 jours, j'espère, pour parler cette fois de la guerre intérieure, des conséquences des attentats et des mesures sécuritaires sur les luttes sociales et dans les banlieues notamment. À dans 15 jours.
Ciao, ciao.